Radio Okapi. Les journaux. Pascal Masirika.
Les titres du journal. Rapatriement ce lundi de corps des 14 casques bleus tanzaniens tués jeudi dernier par des présumés rebelles ougandais de l'ADF. C'était aujourd'hui donc après les hommages leur rendus à Beni pour la bravoure éprouvée au service de la paix en RDC. Répression ce lundi à Goma de la marche pacifique du mouvement citoyen de la lutte à RDC Afrique. Ils entendaient dénoncer les violations des droits de l'homme et la restriction de l'espace politique en RDC. Une dizaine de manifestants a été interpellée par la police. Et puis la MONUSCO réaffirme sa mission de protection des habitants lui confiée par le Conseil de sécurité de l'ONU et appelle la population de Beni au calme. Appel lancé par le directeur de la division de la communication stratégique de la MONUSCO, Charles-Antoine Bambara, est l'invité de Radio Okapi ce soir. Madame, messieurs, bonsoir. Au Nord Kivu, des hommages ont été rendus ce lundi à Beni aux 14 casques bleus tués jeudi dernier par des présumés rebelles ougandais de l'ADF aux abords du pont Semuliki sur l'axe Semba-Ukamango. C'était en présence du numéro 2 de la MONUSCO chargé des opérations, de l'ambassadeur de la Tanzanie en RDC et du commandant de la 3e zone de défense de FRDC. Pour en parler, retrouvons à Beni Martial Papi Mukeba.
Quelques minutes après le début de cette cérémonie d'hommage, 14 cercueils contenant les corps des casques bleus tués et couverts des drapeaux des Nations Unies et de la Tanzanie sont exposés devant les différentes personnalités venues rendre hommage à ces soldats de la paix. Prenant la parole au cours de cette cérémonie, le général Léo Mouchalet, commandant de la 3e zone de défense des FRDC, a loué l'engagement de ces casques bleus dans la lutte contre l'ADF en parlant d'un exemple à suivre par les FRDC.
Il n'y a pas un amour plus grand que celui de se sacrifier pour le bien-être de l'autre. Cet instant doit servir d'exemple exaltant à chaque soldat congolais. Cet acte combien louable sera inscrit dans l'histoire moderne de notre République. Vaillants combattants tanzaniens et compagnons d'armes, d'ores et déjà, cela réveille en nous la force de dire que nous n'oublierons jamais votre présence parmi nous, que nous n'oublierons jamais le travail combien louable, combien exaltant, combien noble que vous venez d'accomplir.
Signalons que le rapatriement des corps de ces casques bleus vers la Tanzanie est intervenu après cette cérémonie d'hommage. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Et à l'issue de cette cérémonie, l'ambassadeur de la République unie de Tanzanie, en RDC, a réaffirmé l'engagement de son pays à neutraliser les rebelles ougandais de l'ADF à travers la MONUSCO. Paul Ignace Mela rassure que ce drame ne va pas diminuer les efforts de son pays dans cette lutte. Il est au micro de Martial Papi Mukeba.
Nous allons poursuivre avec nos efforts, même si nous avons perdu 14 de nos militaires. Et pour cela, le travail va se poursuivre normalement et la Tanzanie n'a jamais dit qu'elle se retire. Cette attaque ne va pas diminuer nos efforts, mais au contraire, c'est une motivation dans la façon de travailler. Ce n'est pas la première fois d'être attaqué, et ce n'est pas seulement en RDC, même au Soudan, au Lebanon et au Libéria. Nous condamnons cette attaque et ceux qui l'ont perpétrée sont des lâches et ils ont commis ce qu'on appelle crime de guerre. Ce qui va suivre, comme d'habitude, nos militaires vont se ranger pour continuer leur travail. Nous allons aussi suivre les instructions au pays.
Pour sa part, le numéro 2 de la MONUSCO chargé des opérations a précisé que l'attaque de la base de la mission onusienne sur l'axe Mbaoukamango s'est justifiée par l'importance de cette route en vue du ravitaillement des présumés rebelles ougandais de l'ADF actifs dans les territoires de Beni. Pour David Grisley, la meilleure façon de rendre hommage à ces soldats de la paix est de poursuivre leur combat. On l'écoute au micro de Martial Papi Mukeba.
Et je crois que cet axe est important pour l'ADF, le présumé ADF, pour les raisons logistiques. Donc, je crois que ça, c'est l'explication derrière tout ça. Mais ce qui est important maintenant, c'est de rester engagé sur cette route pour protéger les civils, surtout vers Kamango. Donc, nous sommes déterminés de continuer notre travail sur cet axe. Nous sommes renforcés de position à Semuliki aujourd'hui. On va continuer d'augmenter notre capacité dans cette base militaire, mais aussi on va renforcer nos efforts sur l'axe Bao-Kamango. Donc, nous restons déterminés de continuer notre travail ici. Mais je crois quand on rend hommage à ces soldats qui ont trouvé la mort, c'est important aussi de rester ferme avec notre détermination de continuer le travail pour lequel ils ont donné leur vie.
Et puis, les FRDC ont repris hier dimanche après-midi la localité de Piengé dans la province de la Tchopo après 10 jours d'occupation par des miliciens Maïmaï commandés par Luc Yabili. C'est à 350 km à l'est de Kisangani dans le territoire de Bafouassende. Le récit d'André Kitenge.
Selon des sources concordantes sur place à Opiengé et Bafouassende, c'est aux environs de 6h30 que les FRDC ont fait leur entrée à Opiengé Centre après un bref affrontement avec les Maïmaï de Luc Yabili. Il est difficile pour le moment d'établir un quelconque bilan des affrontements dans les deux camps car les opérations de nettoyage se poursuivent. Selon le commandant de la 31e région militaire, les forces armées de la République démocratique du Congo ont attaqué la localité d'Opiengé tôt le matin pour la reprendre aux mains des inciviques. Pour le général Innocent Kabundi, l'objectif est de chasser définitivement ces hors-la-loi dans cette partie de la province de la Tchopo et surtout détruire leur état-major. Rappelons que la prise d'Opiengé le 30 novembre dernier par les Maïmaï de Luc Yabili avait provoqué un déplacement massif des habitants vers la localité voisine de Bafouabalinga au point kilométrique 232 sur la RN4. André Kitenge, Kisangani, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi la répression de la marche pacifique organisée ce lundi matin dans la ville de Goma, au Nord Kivu, par des militants du mouvement citoyen de la Lucha RDC Afrique. Une dizaine de manifestants, dont une fille, ont été interpellés par la police nationale. Ils dénonçaient les violations des droits de l'homme et la restriction de l'espace politique en République démocratique du Congo. C'est au lendemain de la Journée internationale des droits de l'homme. À Goma, Gabriel Wamenya.
Assis au rond-point BDGL, arborant des banderoles où l'on pouvait lire la liberté de manifester consacrée par la Constitution, ces jeunes militants de la Lucha scandaient aussi des slogans où ils dénonçaient la restriction de l'espace politique et l'usage disproportionné des forces de l'ordre à l'endroit des acteurs politiques, ceux des droits de l'homme, ainsi que contre les populations pendant les manifestations. Encadrés au début de la manifestation par la police, quelques instants plus tard, l'ambiance va tourner au vinaigre. Un véhicule plein de policiers surgit au point de départ de la manifestation et c'est la confusion totale qui règne. Les journalistes sont chassés, les militants de la Lucha qui se tenaient coude à coude sont violemment embarqués sous les coups de matraque dans les véhicules de la police. Ils ont tous été amenés au cachot du bureau des renseignements de la police. Un des officiers de la police dans cette opération a déclaré gorge déployée que le mouvement de ces voyous n'a pas un soubassement juridique. Fin de citation. Contacté au sujet de cette énième répression contre les militants de la Lucha, l'un des responsables provinciaux de la police a affirmé que toutes les manifestations sont interdites par le maire de Goma sans plus. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Politique encore, l'avenir de la démocratie est mis en danger en République démocratique du Congo. C'est en tout cas ce qu'ont affirmé ce lundi ici à Kinshasa les membres des organisations de la société civile à l'occasion de la 70e journée internationale des droits de l'homme. Cette déclaration universelle a pour thème cette année, œuvrons pour l'égalité, la justice et la dignité humaine. À cette occasion, ces organisations ont fait un état des lieux sur les droits de l'homme avec quelques recommandations pour une amélioration de la situation. Un reportage de Jeff Ngoy.
Plus d'une centaine d'ONG craignent que la dégradation de la situation des droits humains et libertés fondamentales s'inscrive dans une politique délibérée visant à instaurer un régime antidémocratique. Elles recommandent au gouvernement notamment d'abandonner toutes les réformes qui remettent en cause les acquis d'un état de droit démocratique consacré par la Constitution du 18 février 2006. Un des défenseurs des droits de l'homme, Irène Essambo, fait le constat suivant.
La persistance des violations massives des droits humains caractérisé par des attaques contre les populations civiles, les défenseurs des droits de l'homme et des journalistes, de meurtres et assassinats ciblés, des disparitions forcées, des violences sexuelles, des arrestations et détentions arbitraires, des actes de torture, la paupérisation des populations.
Il n'y a pas que de points négatifs, il y a aussi quelques points positifs sur le plan des textes, mais à compter sur le bout de doigt, comme le dit le président de la CAJ, Georges Kapiamba.
Le fait d'avoir incorporé dans le les lois nationales, les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme constituent déjà un point positif.
Pour les défenseurs des droits de l'homme, une chose est d'introduire les droits dans la législation nationale, mais une autre est de permettre aux citoyens d'en jouir effectivement. Et c'est cela leur combat.
Merci Jeff Ngoy pour ces précisions. Dans le même chapitre, le réseau des protections des défenseurs des droits de l'homme, une plateforme de la société civile, demande au gouvernement de la RDC de mettre sur pied au plus vite un mécanisme de collaboration avec les ONG qui militent en faveur de la protection des droits de l'homme. Un membre de cette plateforme demande au gouvernement congolais de répertorier les ONG qui sont dans ce secteur. Irène Bahati, interrogée par Paul Matendo.
Je demande au ministère ou le gouvernement à travers le ministère des droits humains de s'approcher de toutes ces organisations-là qui sont sur le terrain et mettre en place un mécanisme, un système de politique de respect des droits de l'homme. Comment travailler pour l'effectivité et l'inclusion de toutes ces organisations qui travaillent dans le bon sens, dans le cadre de protection de la dignité de notre pays. Parce que les organisations qui sont sur le terrain, ils sont bien répertoriées, bien connues. Si le gouvernement, à travers le ministère des droits humains, peuvent s'approcher de toutes ces organisations-là, qu'ils répertorient d'abord les organisations existantes et qui travaillent, qui militent dans le cadre des droits de l'homme. On peut être défenseur des droits de l'homme, mais on n'est pas activiste des droits de l'homme.
Autre chose à présent, l'Union européenne condamne fermement les violations des droits de l'homme et les harcèlements des acteurs politiques, de l'opposition à RDC, des représentants des médias et de la société civile ainsi que des défenseurs des droits de l'homme. Cette position est contenue dans les conclusions du Conseil de l'Union européenne sur la République démocratique du Congo, des résolutions qui ont été adoptées ce lundi lors de la session à Bruxelles en Belgique. Pour cette organisation européenne, ces violations des droits de l'homme sont incompatibles avec les principes démocratiques et le respect des libertés fondamentales qui sont consacrés par le droit international public. L'essentiel de cette déclaration de l'UE avec vous, Mimi Ngouma Moulongo.
L'Union européenne dit s'associer aux autres acteurs de la communauté internationale, en particulier les Nations unies, pour condamner les abus et violations graves de droits de l'homme et des libertés fondamentales en RDC, ainsi que les violations du droit international humanitaire, notamment au Kasaï. L'Union européenne exprime sa grave préoccupation quant à la situation sécuritaire qui prévaut dans le Kasaï, au Tanganyika et à l'est de la RDC, dont les femmes et les enfants sont les premières victimes. Elle rappelle la responsabilité première des autorités congolaises, en particulier des forces armées de la RDC, dans la protection des populations. Par ailleurs, l'Union européenne salue le rôle essentiel joué par la MONUSCO qui vient de payer un lourd tribut avec l'attaque du 7 décembre au Nord Kivu, faisant de nombreux morts et blessés parmi le contingent tanzanien, les militaires congolais et les civils. Dans le cadre de la résolution sur les Kasaï, adoptée par la 35e session du Conseil des droits de l'homme, avec le soutien de la RDC, l'Union européenne promet de suivre avec la plus grande attention la mission de l'équipe d'experts internationaux établie par les bureaux du Haut Commissaire aux droits de l'homme. Cette résolution, rappelle-t-elle, engage la RDC, qui est membre du Conseil des droits de l'homme, à leur donner un accès libre et sans entrave aux documents, aux territoires et aux personnes concernées, et à lui permettre de fonctionner selon les standards internationaux d'indépendance et d'impartialité.
Il est 18h13 à Kinshasa. En marge de l'examen du projet de loi électorale au Sénat, ici à Kinshasa, les députés nationaux de l'opposition, accompagnés de beaucoup de manifestants, ont marché aujourd'hui sous la pluie, ici à Kinshasa, entre l'avenue de l'Enseignement et le Palais du Peuple. Objectif affiché, interpeller les sénateurs sur le caractère liberticide de ce projet de loi. Le président du groupe parlementaire des démocrates libéraux a bon espoir que le Sénat congolais va rejeter en bloc la caution, le seuil ainsi que la machine à voter contenue dans ce projet de loi. Léon Mondolé le dit à Michel Kifindangoy.
Nous marchons pour aller sensibiliser les sénateurs qui sont en train d'examiner la loi électorale pour leur prévenir qu'ils puissent sauver la démocratie. Nous avons besoin des élections apaisées qui vont jeter les meilleures bases de la paix.
Vous n'avez pas réussi à bloquer cette loi au niveau de l'Assemblée nationale où vous siégez. Est-ce que vous croyez en vos actions? Vous pensez qu'avec ces marches, vous pouvez arriver à bloquer cette loi qui est déjà votée au niveau de la Chambre basse?
Nous ne visons pas un blocus total ou général de la loi. Ce que nous visons, c'est que les sénateurs comprennent qu'ils ne doivent pas soutenir la démocratie des riches. la machine qui va jeter des bases pour la fraude électorale et surtout qui ne soutiennent pas le seuil de l'éligibilité qui est une notion qui va tuer les petits partis et qui est une mesure liberticide. Nous avons confiance au Sénat. Vous vous souvenez, en 2015, le Sénat a sauvé la République. Le Sénat a sauvé la démocratie et nous sommes sereins, le Sénat va sauver la République.
Pour la suite du journal sur Radio Okapi ce soir, sachez que l'immeuble qui abrite le siège de l'UDPS dans la commune de Limete, ici à Kinshasa, n'est pas un acquis sur fonds de cotisation des membres, selon le porte-parole de ce parti politique. Il réagissait donc aujourd'hui au discours qui a été prononcé ce week-end par Bruno Tshibala, Premier ministre, à la fin du congrès organisé par l'UDPS et Tshibala. Parlant justement de ce congrès, Augustin Kabuya rappelle que Bruno Tshibala s'était déjà auto-exclu de l'UDPS. Il est joint par Paul Matendo.
Si vous voulez avoir de bonnes informations sur l'achat de ces bâtiments, il y a M. Sami Badibanga qui ne fait plus partie du parti, qui peut vous donner la vraie réponse, puisque lui, c'est la personne qui avait envoyé l'argent au président Tshisekedi de son vivant. Et lui-même, Bruno Tshibala, posez-lui la question. Combien de fois il faisait ses cotisations comme membre de l'UDPS? Est-ce qu'il a même la carte de l'UDPS, même les anciennes cartes? C'est un monsieur que je connais très bien. Même pour la réhabilitation de cette permanence-là, il avait reçu 5 000 € de la poche du président Tshisekedi. Et combien il avait engagé comme dépense? Il avait tout bouffé. Il sait très bien que ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pour justifier l'argent qu'il a reçu pour liquider l'UDPS. C'est ça la mission qu'il a reçue. Au sujet du vrai congrès de l'UDPS, ça sera convoqué incessamment. Il y a une commission mise en place par le secrétaire général Jean-Marc Aboun. Je pense que ce débat-là est clos.
Autre nouvelle en plus bref, le président Joseph Kabila Kabange a inauguré ce lundi le bâtiment administratif du gouvernement central sur le boulevard Triomphal, non loin du Palais du Peuple, ici à Kinshasa. Les travaux qui ont duré près de 2 ans ont été exécutés dans le cadre du partenariat sino-congolais. C'est ce qui explique la remise symbolique de la clé au chef de l'État congolais par l'ambassadeur de la Chine en République démocratique du Congo.
Actualité Afrique Monde.
On passe à l'actualité de l'étranger. L'ONU a lancé aujourd'hui lundi un appel urgent pour accueillir 1300 réfugiés vulnérables bloqués en ce moment en Libye après les révélations d'abus horribles dont sont victimes les migrants dans ce pays. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR a précisé à ce sujet qu'il fallait trouver ces places d'accueil d'ici à la fin du mois de mars de l'année prochaine. C'est un appel désespéré à la solidarité et à l'humanité, a affirmé Volker Turc, le responsable de la protection au HCR. La Cour pénale internationale CPI a estimé aujourd'hui lundi que la Jordanie avait manqué à ses obligations en n'arrêtant pas sur son sol au mois de mars dernier le président soudanais Omar el-Béchir qui est poursuivi pour génocide au Darfour. La CPI a décidé de référer cette non-coopération devant l'Assemblée des États parties au statut de Rome, mais aussi au Conseil de sécurité des Nations Unis à New York. Omar el-Béchir est visé, je vous le rappelle, il est visé par 2 mandats d'arrêt internationaux qui ont été émis en 2009 et en 2010 pour génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis au Darfour, une province où la guerre civile a déjà fait 330 000 morts selon les Nations Unies. Et puis le président burkinabé Christian Kabore a appelé hier après-midi à rendre justice dans toutes les affaires sensibles dont les dossiers de l'assassinat de Thomas Sankara, Norbert Zongo, du putsch manqué et de l'insurrection populaire pour aider le peuple à se réconcilier. Il a dit dans un discours radio-télévisé à la veille de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, son pays. À Bangui, la capitale de la République centrafricaine, une altercation entre 2 groupes d'autodéfense locale a fait 4 morts aujourd'hui après-midi dans le quartier du PK5. L'agence France Presse qui annonce la nouvelle précise qu'un membre d'un groupe armé a été tué et cela a entraîné du coup des représailles qui ont fait 3 autres morts.